Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 60e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu. Salut Caf.
Oh, salut Faskil.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, ça va pas mal. On y fait 25 degrés, il fait beau ici sur Paris.
Ouais, c'est encore
contents.
Un peu l'été.
Bah écoute, on en profite jusqu'au bout et ça c'est bien. Par contre, non, mais je dors pas assez, ça tu le sais. Et c'est compliqué, mais regarde, nous avons une voix enjouée, nous sommes
ouais,
au taquet.
On fait bien semblant, on fait bien illusion.
Hey, c'est un métier, hein. Moi je suis fier de nous.
Entertainers.
Ouais, ménestrel presque. Ouais,
voilà, exactement. Bon allez, on va attaquer tout de suite avec le gaming et on va parler de nos amis de Sony qui sont décidés à se mettre sérieusement au crossplay.
Incroyable, je me demande ce qui les a poussés. Alors je rappelle vite fait pour les gens qui n'étaient pas au courant parce qu'ils n'ont pas de PS4 et ils s'en fichent complètement. Sony qui est redevenu le leader de la console de jeux vidéo, d'un coup d'un seul avait décidé de verrouiller tout ce qui était online au PSN, donc le PlayStation Network, et il était impossible de jouer en multi avec ses petits camarades sur d'autres consoles, genre une Xbox au hasard. De temps en temps, ils autorisaient du bout des doigts de pouvoir jouer avec des gens sur PC, parce que le PC, tu vois, c'est pas sale, c'est pas une autre machine, mais déjà, c'était pas tout le temps, et en plus, bon, il fallait avoir des bonnes relations avec eux, c'était compliqué. Et puis, un petit jeu, là, gratuit, qui est sorti, qui intéresse pas grand monde, qui s'appelle Fortnite. Et donc Fortnite, évidemment, qui fait des millions et des millions et des millions de joueurs, les mecs sortent sur PS4 et d'un coup, les gens se disent « Mais ouais, mais moi, j'aime bien jouer aussi sur mon PC. Et puis regarde, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir jouer avec mes potes sur téléphone, ou etc. etc. » Et bah du coup, alors qu'ils avaient dit que non, vous comprenez, pour des raisons de sécurité... J'ai fait mes grosses air guillemets à côté de mon micro. Nous ne pouvons pas ouvrir le truc comme ça, c'est pas possible. Sauf que depuis que Fortnite est sorti et qu'ils ont pris un énorme coup de pression de la part de déjà des gens qui veulent jouer avec leurs amis, qui se comptent en millions, et puis de l'éditeur lui-même, Epic, qui dit « Dis donc Roger, j'ai bien compris que tu voulais garder l'argent pour toi quand les gens achètent des skins sur le store PSN, puisqu'à ce moment-là, quand vous achetez des trucs Fortnite sur le store Fortnite, sur PlayStation 4, Sony prend sa dîme. » Et il est très content, Sony, sauf qu'il y a un moment où il faut savoir un peu lâcher un peu d'argent, si tu veux, pour que les gens ne s'enfuient pas. Et c'est ce qu'ils ont fini par faire. Ils avaient lâché du bout des lèvres, là, c'était quoi? C'était pendant le 3, je crois, là, au mois de cet été, mois de juin, que peut-être ils allaient réfléchir à éventuellement ouvrir un petit peu les... Bon, ils l'ont fait. Donc voilà, c'est officiel. Ça y est, je crois que ça marche déjà, d'ailleurs, sur Fortnite. Et du coup, il y a plein d'autres jeux qui devraient suivre, mais officiellement, ceci est un bêta test, parce que faudrait quand même pas que les gens s'enflamment de trop. Mais j'imagine qu'on va avoir du Rocket League et des trucs comme ça qui vont pouvoir suivre très très vite. Des jeux très populaires en multi, qui étaient vraiment limités au public PS4 sur console, parce qu'encore une fois, par exemple, Rocket League, tu peux jouer sur PC contre des mecs qui jouent sur PS4. Mais c'était compliqué pour faire entre consoles, ça marchait pas. Sauf que, on sait, oui, parce que la petite blague, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'histoire, c'est qu'à un moment il y a eu un bug, alors je sais plus de quel côté il était, mais d'un coup tout le monde pouvait jouer avec tout le monde, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de flipper, tu vois, la grosse manette qui
c'est
dit,
ça oui, nope.
Nope, toi tu restes à la maison, et d'un coup tout le monde a réalisé que
en fait c'est jouable,
bah, techniquement il n'y a aucun souci,
je suis très plein de ma gueule,
et c'est ça, donc l'argent, hein, comme d'habitude, le nerf de la guerre, mais ça y est, là, il y a tellement de pognon en jeu et surtout tellement de gens qui veulent ouvrir le truc. Là, Fortnite a une puissance, de frappe colossale, ce qui fait que bon bah du coup ils ont été obligés de changer leur fusil d'épaule. D'ailleurs pour la blague, hein, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais Fortnite, ils ont fait une promo avec une skin exclusive sur Samsung. Il faut aller acheter, je crois, le dernier Note pour pouvoir avoir une skin dans Fortnite, le partenariat, tu vois. Genre des gamins vont acheter des téléphones à 1 000 € pour avoir une skin. Et ce que Samsung n'avait pas prévu, c'est que faut pas dire à un gosse qu'il y a une skin gratuite.
Avec ouais, j'ai entendu ça. Ils sont tous allés déloquer ça dans les magasins, c'est ça?
Exactement. Okay. Ça a foutu le bordel comme c'est pas permis. Les gamins, ils rentraient en douce dans chez SFR, Bouygues, enfin, chez tous les opérateurs de la planète, en fait, hein. Mm-hmm. Et dans les magasins Samsung quand il y en avait, parce qu'il y en a pas, c'est pas des Apple Store, on n'en trouve pas tous les coins de rue. Et les gamins, ils installaient Fortnite, ils rentraient leur compte et ils débloquaient la skin en douce. Donc d'un coup, il a fallu que Samsung engueule Epic pour que les trucs soient liés à un compte, à un téléphone spécifique, etc. Renforcer les les vérifications. Donc, mort de rire. Donc, voilà, faites gaffe, les messieurs du marketing. Ne promettez pas des choses aux enfants. Ça peut déraper très vite.
On aime bien chez Geekzone taper un peu sur les clous, notamment des cercueils. On pensait que le jeu était mort et apparemment il était toujours pas mort, mais maintenant ça y est, il est mort.
Ça y est, tu sais, c'est un peu comme ces stars où on t'annonce la mort et tu te dis mais je ne comprends pas.
Mais il
n'était
pas déjà mort, oui, c'est ça.
Ça fait des années qu'il est mort, lui. C'est quoi ces conneries? Non, le mec il avait arrêté de faire des films, c'est tout, laissez-le tranquille. Bon, bah voilà, c'est pareil. Wildstar, le MMO qui devait tuer WoW. Il a pas tué grand monde à part lui en fait. Donc vous l'aviez tous oublié, hein, soyez honnête. Oui. Je vous parle de Wildstar en 2018, vous êtes là genre putain c'était quoi, c'était avec quelle gueule déjà ce truc. C'était un bordel un peu science-fiction qui était pas si moche, hein, qui était très Blizzard d'ailleurs dans le design, hein, bizarrement, et qui va fermer le 28 novembre. Alors il devait fermer plus tôt, finalement il y a plein d'événements, ils ont décidé de partir sur un bang final, tu vois. Il y a le Big Bang, c'est la création, eux ça va être le bang tout court, et après on plie les gaules et on ferme, on rentre à la maison, et donc là ils ont plein d'événements. Si vous avez encore des persos, c'est le moment de les dépoussiérer pour aller verser votre petite larme. Faites semblant, faites un effort, hein. c'est pas facile pour eux, et du coup je voulais en parler parce que lui il ferme le 28 novembre et c'est un des derniers qui était sorti pendant la ruée vers l'or des MMO, où tout le monde se disait ah, je vais devenir milliardaire comme Blizzard en faisant un MMO. Bah non les mecs, parce qu'il y a déjà World of Warcraft. Alors c'est compliqué en fait, et puis qu'il était bien le WoW, donc c'était compliqué de faire mieux, et voilà, donc eux ils arrêtent, et je me permets de faire l'enchaînement sans toi sur le sujet d'après.
Non, mais vas-y, mais si je vais aller boire un café, moi,
mais du coup utile. Tu vois, parce que eux ils ferment en voulant copier WoW, et pendant ce temps-là Blizzard ils annoncent la démo de WoW Classic, donc WoW Vanilla.
On est reparti pour un cycle.
Voilà, les mecs, en fait, c'est un truc qui a été demandé pendant super longtemps. Les gens qui n'ont pas aimé les évolutions de WoW, ouais. Qui trouvaient que c'était mieux avant. Ok, d'accord, très bien, les mecs. Si c'est mieux avant, on va vous en mettre une petite couche. Et je sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Il y avait des mecs qui avaient fait des serveurs en reverse engineering,
Vanilla, voilà. Ouais.
Voilà, donc où c'était des trucs absolument non officiels qui ont été torpillés par Blizzard il y a pas très longtemps. Mais quand ils ont fait ça, ils ont promis qu'ils allaient essayer de faire plaisir aux gens et de faire un truc qui soit circa 2003. La naissance de WoW, faites-vous plaisir, quoi. Ils ont tenu parole, parce que Blizzard, quand il y a de l'argent à se faire, ça les dérange pas de faire plaisir aux gens, tu vois. Et du coup, WoW Classic sera annoncé à la BlizzCon 2018, et comme il n'y a pas de petit profit chez Blizzard, tu sais, les mecs sont quand même plutôt malins, ils ont annoncé qu'il serait possible non seulement d'y jouer sur place, mais que pour les 40 euros du billet virtuel de participation à la BlizzCon virtuel, donc qui donne accès tous les ans à des goodies dans les différents jeux Blizzard, accès au stream HD pour mater les confs, etc., etc. Pour ces 40 euros, tu auras aussi le droit de récupérer la démo et d'y jouer chez toi. Alors, autant te dire que des billets virtuels cette année.
Il va s'en vendre des paquets.
Ah non, mais pour 40 balles, les mecs, ils sont en mode tech my money, tu sais, ils jettent les billets sur l'écran, là. Genre, s'ils pouvaient l'avoir pour 80 maintenant, voire pour 400, là, tout de suite, il y a des mecs qui paieraient, bon, d'accord. Donc voilà, bravo.
Tous ces gens qui ont trop d'argent.
C'est ça, mais c'est surtout bravo Blizzard, parce que quand même, c'est les rois du levier pour aller chercher la thune chez les fans. Je regardais les commentaires sur les différents sites qui ont annoncé la news, et il n'y a pas un mec en mode genre, oui, bande d'escrocs, 40 euros, la démo, Non, les mecs sont là genre, oh, quelle bonne idée. Bon, bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Allez, on passe du côté des apps avec une app pour Chrome only, Coda.io. C'est quoi ça, Coda.io?
Alors, Coda.io. Alors, Coda.io, qu'est-ce que c'est? C'est fait partie de cette nouvelle vague d'applications web de productivité. Genre, les mecs, tu vois, nous, toutes les semaines, on fait notre conduite avec Paper, qui est un produit de chez Monsieur Dropbox, qui est plutôt pas mal, qui est une sorte de Google Doc épuré qui permet d'exporter en Markdown, enfin de faire des trucs modernes avec des techno web, alors que Gdoc c'est resté très Word-like, donc si vous imprimez à la fin c'est intéressant, pour la collaboration c'est très bien, mais Paper permet de faire de la collab et des exports, on va dire, plus axés web en fait que papier à la fin. Bref, il y a plein d'applications dans ce genre-là qui sont sorties. Coda.io, le but du jeu pour eux, c'est d'avoir un truc qui soit une sorte de méga Google Doc, et ils ont tout mis à l'intérieur.
D'accord.
Alors je vais essayer de m'expliquer plus clairement, mais en gros vous avez le concept, c'est que au lieu d'avoir d'un côté votre tableur, d'un côté votre traitement de texte, etc., ils ont fait en sorte de pouvoir tout intégrer dans la même feuille. Donc en fait, quand vous ouvrez un document, vous avez des onglets sur le côté qui vous permettent de faire des sections qui sont en fait des sous-documents, des pages vierges. Donc les onglets sont sur le côté droit, sur le côté gauche chez eux, donc dans la verticalité, n'est-ce pas? Et là, chaque page vierge, en fait, vous pouvez insérer à l'intérieur des tas de trucs. Alors, des tableurs, du texte, des images, du son, des tableurs modifiés qui permettent, en fait, de faire genre des trucs interactifs, des tableaux de productivité, des Trello-like pour regarder qui fait quoi, donc des to-do list. Tous ces trucs-là peuvent s'imbriquer et se parler, en fait, entre les différents documents. C'est extrêmement lié, en fait, à Google Docs, dans le sens où les différents documents de chez nos amis de Coda, en fait, sont stockés sur votre drive. D'accord. Donc, il vous faut un compte Google pour vous connecter à ce truc-là. Et comme ils utilisent les dernières techno web de chez notre ami Google, eh ben, il faut aussi avoir Chrome. Et pour l'instant, c'est Chrome only. Donc, j'ai essayé avec Vivaldi, il ne le reconnaît pas, puisqu'il a décidé qu'il faisait un test et que si le truc ne s'appelle pas Chrome, il n'y va pas, quoi. Il ne regarde pas si le browser est capable de le faire ou pas. Et comme ils sont en phase de bêta, vous ne pouvez pas vous loguer actuellement directement. Il y a une petite liste d'attente, mais c'est assez facile de se faire inviter ou de rentrer dedans. Du coup, ça leur évite d'avoir des trucs à gérer, j'imagine. Tiens, le mec a essayé de se connecter avec Opera ou Vivaldi, il manque tel truc du core Chrome et ça marche pas. Et bon, c'est galère quand tu fais un nouveau produit d'essayer de gérer ça d'entrée de jeu. Donc, ils ont prévu d'ouvrir aux différents navigateurs, y compris Firefox, je leur ai posé la question. Mais pour l'instant, c'est uniquement sous Chrome. J'en parle parce que c'est plutôt efficace. Sur certains types de projets, c'est vraiment bien foutu. Ils ont pas mal de fonctions d'export. Je pense que la visualisation... En fait, c'est vraiment un Google Doc modernisé, mais avec énormément de fonctionnalités. Donc, c'est un peu plus souple que Paper. En revanche, pour l'instant, il n'y a pas d'appli mobile. Donc, déjà, c'est un vrai problème en 2018, j'imagine. Enfin, pour moi, c'est un peu le truc qui va me bloquer à l'utilisation. Et en termes de workflow, si vous êtes déjà à l'aise avec ce que vous utilisez sur Paper, Google Doc et compagnie, la transition est pas forcément, le besoin on va dire est pas forcément là.
Ouais.
Donc c'est à tester, en tout cas ça existe et je pense qu'à l'avenir on va parler assez souvent de ce genre de trucs, parce qu'il y en a de plus en plus et il y en a vraiment des très bien. Alors la problématique comme d'habitude c'est que ça pue la start-up et que parfois ça décède assez vite.
Oui.
Alors c'est, il y a rien de plus chiant que de monter un workflow avec toute son équipe.
C'est ça. Et puis après ces gens ça marche plus.
C'est ça. Au fait, on ferme la semaine prochaine. Alors l'export de vos documents, c'est là. Pardon. Et faites pas de bruit en fermant la porte, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon, comme on est quand même sur Geekzone et qu'on aime bien tester les trucs nouveaux, quitte à se faire brûler les doigts, hein, voilà. Allons-y.
On est des baroudeurs. On va parler de plugins d'instruments virtuels. Ça faisait longtemps. J'en parle parce que j'aime vraiment bien la boîte. Enfin, la boîte, c'est un monsieur en fait, un Blink Sonic. C'est un petit français, un petit développeur français, nice. Très sympathique. On avait déjà parlé sur Geekzone il y a quelques semaines, voire quelques mois. En fait, il développe ce qu'on appelle des ensembles. Donc, c'est des instruments virtuels qui sont développés pour Reactor, qui est une plateforme, si tu veux, développée par Native Instruments, qui permet de faire du synthé modulaire virtuel, donc de créer, si tu veux, de toutes pièces tes propres synthétiseurs. Et il fait des produits vraiment intéressants parce qu'il explore des univers sonores qui sont pas très classiques, en fait, qui mélangent à la fois ce qu'on appelle la granularité, donc c'est des sons que tu peux éditer, découper dans tous les sens, avec un côté un peu random dans la genèse des sons et tout, donc c'est plutôt sympa. Et là, il vient de sortir un nouveau plugin qui s'appelle Threads.
Parce que quand je le vois écrit dans la conduite et j'ai fait genre bon courage mon gars pour prononcer ça parce que ça ressemble à rien.
Threads, donc avec un 3 au milieu à la place du E, ouais. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Il est lit, voilà, exactement. Et donc là, pour le coup, ce plugin là se base sur la guitare, et plus précisément sur les harmoniques créées par des guitares. Donc, si vous êtes fan de Robert Fripp, ça va vous parler. Donc ces sons de guitare un peu, c'est difficile à décrire en fait. Le mieux, ça serait que je vous fasse écouter un petit peu de son. Et pour ça, il y en a sur la news que j'ai fait cette semaine sur Geekzone. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur le billet que j'ai posté cette semaine où il y a des extraits sonores justement. Ça vous permettra de comprendre un peu mieux le principe. Mais en gros, pour faire très 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 très, très bref, on va pas y passer non plus des heures. Il a été samplé des guitares, des sons de 4 guitares différentes, il les a utilisés donc pour créer des nouveaux sons. Alors ça donne des petits effets percussifs mélodiques assez jolis, qui sont quand même relativement en vogue aujourd'hui dans la scène électronique, donc c'est plutôt contemporain on va dire comme instrument. Ça coûte pas cher, c'est 50 balles, et le seul petit bémol, c'est que cette version, donc ce nouvel ensemble de Blink Sonic, ne fonctionne qu'avec la version complète de Reactor, alors que les versions précédentes, les autres plugins dont on a avait déjà parlé, fonctionnait avec la version player qui elle est gratos. Donc ici, il va vous falloir la version payante de Reactor. Donc bah, voilà, déjà, ça va vous coûter un petit peu plus cher que 50 euros si vous n'avez pas Reactor. Mais cela dit, si vous aimez les instruments un peu hors du commun, hors norme, allez jeter un œil. Franchement, ça vaut le détour. C'est assez rigolo. Et puis surtout, il y a toujours ce côté aléatoire qui, moi, me plaît beaucoup parce que, bah, on sait très bien que dans la composition musicale, les accidents sont toujours des éléments qu'on aime bien avoir dans sa production sonore et dans son sound design. Donc voilà, Fretz avec un 3 au milieu, donc le truc imprononçable, c'est chez nos amis de Blink Sonic.
Ah, dis donc, avant que t'enchaînes, je voulais quand même te poser une question. C'est que Native Instruments, actuellement, j'ai l'impression qu'ils ont pris une place dans le monde de la musique, mais incroyable, en quelques années. Là.
Ça fait quelques années, ouais, qu'ils sont devenus assez incontournables, notamment via leur Complete, en fait, hein, qui est l'espèce d'intégrale, si tu veux, de leur plugin, et qui est vraiment un truc qui couvre à peu près tous les domaines. Il y a du synthé modulaire, il y a du sampler, il y a des instruments analogiques, il y a des émulations de synthé analogiques comme FM7 qui est devenu FM8 depuis et qui est donc une émulation du Yamaha DX7, et ils sont devenus littéralement incontournables, d'autant plus que quand t'achètes le pack complet, la version de base, elle est autour de 500 balles, et là-dedans, bah, t'as une centaine de synthés et d'effets, plus des sons et des machins, des
plugins dans tous les sens,
donc voilà. Voilà. Et puis les mises à jour sont relativement abordables, il y en a à peu près une fois tous les 2 ans, je dirais, et ça coûte 200 balles, je crois, pour faire la mise à jour complète, donc passer à la toute dernière version. Donc effectivement, ils sont devenus assez incontournables. Donc voilà, encore un exemple.
Je vois ça partout
ici,
en ce moment, ouais. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Avec leurs instruments aussi, qui sont
voilà,
très jolis.
Exactement. On va passer à tout à fait autre chose, et on va revenir sur les Brothers, parce que je voulais juste annoncer très rapidement que Thor, donc non pas le dieu nordique et le personnage de Marvel, mais le
te connaissant,
voilà, c'est pour ça que je préfère préciser. Thor, donc T-O-R, qui est pas un Brother en tant que tel, hein, Thor, c'est un réseau décentralisé qui permet donc d'avoir tout ce qu'on a accès au dark web et compagnie. Alors, on va pas rentrer dans les détails, donc les sites
pour acheter de la drogue,
voilà, par exemple, mais qui aussi permet donc de surfer complètement de manière anonyme sur le web. Ça fonctionne avec un système de peer-to-peer, etc. Enfin, je rentrerai pas dans les détails. Si vous ne connaissez pas encore, allez jeter un coup d'œil sur la page Wikipédia de Thor. Je crois que c'est encore le plus simple. C'était juste donc pour vous annoncer que jusqu'ici il y avait que des versions pour Windows, macOS et Linux, et il y a désormais une version mobile pour Android qui est en alpha, donc encore évidemment blindé de bugs et pas forcément super stable, mais c'est un premier pas en direction d'une appli dédiée. Pour le moment, il n'y avait pas encore d'appli dédiée, il fallait passer par d'autres applis. Il y a encore quelques restrictions un peu pénibles par rapport à cette version alpha, c'est qu'il faut passer par un proxy pour pouvoir l'utiliser. Alors ils recommandent d'utiliser bien évidemment Orbot, qui est le proxy qui est développé par les gens qui développent Thor. Mais voilà, donc c'est un premier pas vers la mise à disposition d'un browser, on va dire décentralisé, enfin d'un browser qui donne accès au réseau décentralisé Thor sur mobile. Pas de news du côté d'iOS, mais je me doute que ça doit être un petit peu plus compliqué. Et puis si on a des inquiétudes à avoir niveau vie privée, il faut plutôt les avoir du côté de chez Google que chez Apple, j'ai l'impression.
C'est ça.
On reste dans les browsers avec l'annonce, la sortie même de Vivaldi 2.0.
Enfin. Ouais, qui est sortie mercredi dernier. Alors enfin, parce que c'est la première version qui supporte officiellement, on pouvait le faire avant, hein, mais la synchronisation, donc la sauvegarde de vos bookmarks, settings et compagnie d'une machine à l'autre.
Sauf que chez moi, ça marche pas.
oui,
ça sent encore un peu la peinture fraîche. Hein.
C'est un peu le problème avec eux. Moi, j'ai réussi, ça a été compliqué la première journée, mais
je
le
crois
soir
que
même, ça marchait. L'infrastructure
n'est pas encore tout à fait, pas les reins solides, on va dire.
Hein. Non, mais en plus, ça fait deux fois qu'ils recodent le truc, c'est-à-dire qu'il y a eu une première version de cette synchronisation qui n'a pas fonctionné du tout parce que c'était codé un petit peu trop, comment dirais-je, optimistement, pour être poli. Ils ont remis tout ça sur l'établi pour tout recommencer et maintenant c'est censé fonctionner super bien, ce qui donc n'est pas vraiment le cas. Moi, pour l'instant, ça marche bien et vite, sauf que j'ai eu des tonnes de problèmes à la release, mais ça parce que tout le monde a installé la nouvelle version, a testé et ça a fait exploser leur serveur. Ils n'ont pas les moyens d'un Google, hein, donc forcément c'est compliqué pour eux de gérer genre de features. En plus, c'est une synchro hyper intéressante, mais qui va pas synchroniser les trucs les plus intéressants du navigateur, genre les notes par exemple. Enfin, si tu as la capacité dans Vivaldi de faire des captures d'écran, des notes, etc. quand tu es en train de naviguer, ce qui est ultra pratique, c'est une très bonne idée. Mm-hmm. Mais s'il n'y a pas de synchronisation du bordel,
ouais,
c'est un souci. Et en fait, donc, je vais vous passer alors très rapidement sur les nouveautés qui sont... y a plein mal de trucs cosmétiques, encore plus de possibilités de customiser l'interface, qui est un peu le nerf de la guerre de Vivaldi depuis le départ, c'est de pouvoir en faire exactement ce que vous voulez. Y a la possibilité d'avoir une espèce de barre sur le côté dans laquelle vous pouvez mettre des mini-sites, par exemple, des sites en version mobile pour avoir Twitter sous la main, etc., etc. Ça, c'est des trucs qui existaient déjà dans l'ancienne version, mais qui sont encore, on va dire, encore plus souples avec la 2.0. Moi, ce que je retiens de tout ce qui a été annoncé, c'est que le patron de la boîte a enfin lâché du bout des lèvres qu'ils étaient sur une version mobile. Et pour moi, c'est le truc indispensable et c'est leur gros problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que... On s'en fout un peu d'un navigateur desktop. Quand je dis on s'en fout un peu, c'est que le grand public, il est très content avec ce qu'il a. Donc, généralement, Chrome, on va pas se mentir, hein, même si vous devriez être sur Firefox. Mais bon,
non, et puis surtout, le frein, c'est aussi la synchronisation sur
c'est
mobile.
C'est ça.
Quoi.
Non, mais c'est pour ça. En fait, le problème, c'est que ça servait à rien tant qu'ils n'avaient pas la synchro. Maintenant qu'ils ont la synchro, sauf pour toi, normalement, ils vont... Quand tu as ta next step, logique, c'est d'avoir la version mobile.
Ouais.
Une fois que tu as la version mobile avec ta synchro qui marche bien, là, on peut commencer à discuter. Mm-hmm. C'est ce qui a relancé l'intérêt de Firefox, puisqu'ils ont maintenant une offre complète hyper intéressante, y compris avec des produits un petit peu différents, genre Firefox Focus.
Ouais, tout à fait.
Voilà, qui est un truc ultra vie privée, machin, tu peux naviguer tous les trucs les pires de la Terre, hop, tu fermes le navigateur, ça a tout viré, il n'y a plus un cookie, il n'y a plus rien. C'est hyper pratique. Le problème de Vivaldi, c'est qu'ils sont partis sur vraiment une pop... vise des utilisateurs ultra avancés et le fait de pas pouvoir fournir ne serait-ce que la 5 donc la synchro c'est juste c'est tueur tu vois les gens vont pas
c'est
suivre
un vrai blocage, ouais.
C'est un vrai blocage, il y a un vrai problème avec ça, donc bon je pense que là ils ont enfin les pièces manquantes, du coup je pense qu'ils ont une chance de survivre, hein. Les parts de marché sont encore toutes petites mais ils sont gérés, il y a plein de fans par exemple chez OnePassword, donc OnePassword les supports depuis très longtemps parce que les gens sont dessus en interne chez eux, enfin les gens en tout cas quelques-uns suffisamment pour que ça fonctionne. Tout à l'heure, on était en train de râler avant de commencer l'émission sur un truc comme Rambox, qui permet d'avoir, donc, vous connaissez hein, différents trucs genre Slack, Discord, un peu tout ce qu'on veut dans des tabs, mais dans un mauvais browser finalement qui marche pas très bien. Les mecs essayent de passer sur un modèle pro pas terrible. Mais en fait, tout ça, on peut le faire dans un Vivaldi et on peut se préparer des trucs hyper, hyper propres. On peut même mettre des tabs dans des tabs. On peut faire de l'inception de tab dans ce truc. C'est vraiment bien foutu si on veut fouiller dans les options, etc. Mais il manquait des blocs vraiment hyper importants. Ça y est, on les a. Et on verra les parts de marché et puis si la boîte survit à terme, parce que, ils n'ont pas un milliard de vecteurs de revenus pour l'instant.
Mais ce que j'allais dire, ils ont un business model qui est quand même, pour le moment, pas super clair. Quoi. Enfin,
en fait, il est clair, mais il est casse-gueule.
Oui, c'est, ça.
C'est de la vente de liens. Quand vous installez le truc, vous avez des bookmarks, en fait. Et ces bookmarks, pour être dedans, c'est donnant-donnant. Il y a une part de thunes qui vient de la perte du site web, par exemple, qui veut être inclus à l'intérieur. Opera fait la même chose. Hein. Mais ça reste, je ne sais pas combien ça rapporte en termes de thunes. Il y a quand même une team qui a assez conséquente pour développer tout ça. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. J'espère qu'ils vont absolument pas crever parce que très honnêtement, on a besoin d'options comme ça. Ils marchent très bien. Ils sont toujours basés sur les dernières techno. Enfin, ils essayent de coller au techno de Chromium, donc du moteur de Chrome. Et ça fonctionne pas mal. Après, il y a un dernier point bloquant pour certains, c'est que les parties nouvelles qui viennent pas de Chromium, c'est du closed source. Donc, c'est pas de l'open source. Ça arrive des gens qui râlent. J'en connais. J'ai des noms. Moi, perso, je m'en fous un petit peu parce que de toute façon, mais si c'est open, je peux pas aller voir le code. Hein. Mais il y a des gens pourraient le faire pour moi, certes. Mais bon, vu la boîte, vu que le mec, c'est le fondateur d'Opera, qui s'est barré quand ce sont des Chinois qui ont acheté Opera, etc. Enfin, on n'est pas, le mec n'est pas là pour vous voler vos données personnelles, au contraire. Mais effectivement, quand ils disent qu'ils ne vous traquent pas, etc., que c'est ultra safe, ça demande de les croire sur parole, puisqu'on peut pas aller voir ce qu'ils font. Donc voilà, donc j'imagine que c'est problématique pour certains. Je préfère le dire, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. En attendant, le produit est dispo, c'est gratuit, allez le télécharger, vous verrez bien si ça vous plaît. Le seul truc, c'est de ne pas paniquer quand vous allez ouvrir la fenêtre des options, parce qu'il y en a.
Oui, il y en a un paquet, ouais.
C'est pas Firefox.
Et puis si c'est comme moi, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes pour synchroniser, enfin créer votre compte de synchronisation, justement. Donc persévérer, ça finira bien par passer, comme on dit.
Exact.
On va passer du côté de la culture très vite, juste pour signaler, parce qu'on n'en parlera pas dans les clairvoyants, vu que c'est pas du MCU, que le trailer du nouveau film X-Men est enfin sorti. Alors la sortie, elle arrive à un moment qui n'est pas anodin, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs assez négatives sur le film ces dernières semaines. On avait notamment parlé de reshoots assez conséquents. D'habitude, les reshoots, c'est plutôt 2-3 semaines. Là, on avait parlé de carrément 3 mois de reshoots. Donc,
ils ont refait le film, en fait.
Voilà, exactement. Alors, est-ce que c'est pour démentir les rumeurs de reshoots interminables, ou est-ce que ils avaient prévu de sortir malgré tout la bande-annonce et que c'est juste un timing un petit peu étrange? En tout cas, le trailer est est sorti et bah moi je suis pas spécialement emballé. C'est du Simon Kinberg à l'écriture et à la réalisation. Alors Simon Kinberg, les défenseurs de l'univers X-Men aiment bien rappeler que c'est le monsieur qui a fait Days of Future Past, qui a écrit aussi Apocalypse, qui était quand même pas terrible. Mais surtout ils oublient un peu que c'est aussi celui qui avait écrit The Last Stand, le fameux X-Men 3, sur lequel il est pas nécessaire de s'étendre, je pense. Hein. Donc voilà, bah ça tourne autour de Phoenix, du Dark Phoenix, donc Jean Grey et son espèce de créature extraterrestre qui fusionne avec elle.
Pseudo-symbiote.
Voilà. Alors j'ai un peu de mal parce que on reproche souvent au MCU d'utiliser toujours la même formule et on se faisait la réflexion tout à l'heure avec les gens du Discord que quand même finalement les X-Men c'est un peu toujours la même chose aussi quoi. T'as toujours un X-Men qui pète un câble et qui fait de la merde et les autres qui essayent de le ramener à la raison. Ça a quand même été un peu la trame de quasi tous les films X-Men depuis le début de la franchise, à quelques exceptions près. Je crois que c'est Days of Future Past qu'à la limite on pourrait considérer comme faisant pas partie de cette formule. Mais du coup ouais, c'est un peu toujours le même film et puis surtout le problème de la franchise X-Men chez la Fox, c'est qu'à force de l'avoir rebooté dans tous les sens, on a perdu quand même un petit peu d'intérêt pour les personnages. Ils sont généralement réécrits d'un film à l'autre, il y a pas vraiment de continuité et du coup pour moi c'est en tout cas un petit peu plus difficile de m'y intéresser. Donc on verra ce que ça donne. Je vous linkerai le trailer officiel donc qui est sorti hier, avant-hier même, qui est sorti mercredi, comme ça vous pourrez aller jeter un œil. On verra, on jugera sur pièce, on va dire, mais moi je suis pas emballé.
Bah moi je leur en veux vachement parce que les X-Men c'est quand même mon équipe de super-héros préférée depuis que je suis gosse. Hein.
Mmh, ils en ont fait un peu n'importe quoi.
Tous les films qui sont sortis, à chaque fois j'étais en mode genre et il y en a quelques-uns un peu à sauver, mais on est à des années-lumière de ce qu'ils ont réussi à faire sur les Avengers. C'est vraiment assez minable. Et puis celui-là, bon courage pour regarder le trailer sans gueuler Winter is Coming toutes les deux frames. C'est vraiment pas facile, quoi.
Dark Phoenix, donc, qui sortira en salle aux États-Unis, en tout cas le 14 février, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. On va passer du côté de notre rubrique fourre-tout tech, hardware et divers. On va parler d'abord de Spotify très vite pour annoncer une bonne nouvelle. Enfin,
non,
ça pourrait être potentiellement une bonne nouvelle.
Si, pas si. Toi, une bonne nouvelle sur Spotify.
Mais ouais, mais attends.
Rendez-moi facile.
Je me rattrape après, tu vas voir. Mais d'abord, une pseudo bonne nouvelle, puisque ils sont en train d'expérimenter pour le moment aux États-Unis, en tout cas, et sur invitation uniquement, la possibilité pour les artistes indépendants de s'inscrire directement sur la plateforme et d'uploader directement leurs morceaux. Alors pour ceux qui connaissent pas les arcanes du monde de la musique, c'est une super avancée parce que jusqu'ici, si tu voulais être présent sur ce genre de plateforme, il fallait que tu passes par un distributeur qui est un peu un reliquat archaïque de l'époque où on vendait des objets physiques, tu vois, où il fallait un monsieur qui vient avec son camion déposer les CD et les vinyles. Les distributeurs continuent d'exister aujourd'hui et c'est ces gens-là qui ont en fait le droit d'aller mettre en ligne les morceaux, que ce soit chez Spotify, chez Deezer ou autre. Et si tu as pas un label ou si tu travailles pas avec ces distributeurs, tu peux te brosser pour avoir tes morceaux sur Spotify. Donc ils se sont dit, vu qu'on a quand même toujours du mal à générer des revenus, on va peut-être essayer de faire un truc un peu nouveau et un peu qui va dans le bon sens. Et du coup, l'idée c'est de proposer aux artistes d'aller directement uploader leurs morceaux sur la plateforme. Alors évidemment, pour le moment, comme je le disais, c'est que sur invitation et c'est avec un panel d'artistes triés sur le volet assez limité. On vous linkera deux papiers, dont un de Variety sur le sujet qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Mais disons que si ça se confirme et si ça s'étend justement à tous les artistes indépendants, ça risque de mettre un gros coup aux distributeurs qui continuent d'exister un peu, contre nature, hein, parce qu'il y a vraiment plus de raison aujourd'hui avec les facilités de voilà, c'est ça, il y a plus de camions, puis il y a surtout plus besoin de ces gens-là qui, au passage, on va pas oublier non plus, qui se sucrent quand même pas mal en général, entre 10 et 30% en moyenne, donc c'est pas négligeable. Donc un bon point pour Spotify, en tout cas si ça continue et si c'est pas juste de la poudre aux yeux pour faire plaisir aux actionnaires, ce qui est toujours une possibilité avec Spotify malheureusement. Et puis je voulais quand même mettre un petit taquet aussi à nos amis Numérama qui aiment bien châtier bien, parce que justement ils ont parlé cette semaine d'un papier qui moi m'a un peu énervé sur cette collaboration entre Spotify et Ancestry, qui est une boîte américaine qui permet donc de faire des analyses d'ADN pour détecter déterminer ton arbre généalogique notamment. Et donc ils se sont associés de manière un peu étrange avec avec Spotify pour proposer donc de la musique, en tout cas une sélection de musique basée sur ton ADN. Alors déjà, le concept en soi est un petit peu fumeux, on va dire.
Ça va me sortir de la cap-up automatiquement, tu crois?
Non, bah écoute, il y a eu quelques journalistes qui s'y sont risqués, qui ont fait le test et qui ont eu des résultats qui étaient, de manière générale, pas vraiment convaincants. Le seul petit problème, et c'est pour ça que je voulais mettre un petit taquet à Numérama, c'est qu'ils ont oublié quand même que Ancestry n'est pas une boîte qui a une très très bonne réputation. Ils ont eu pas mal, ils ont été pas mal pointés du doigt pour un non-respect de la vie privée et puis surtout pour certaines libertés qui se permettaient de prendre avec ton ADN, justement, où ils s'en accaparaient les droits d'utilisation de manière quand même un petit peu discutable. Alors, ils étaient revenus sur leur pas à l'époque où ça avait été mis sur la place publique et où ça avait été décrié, mais ça reste quand même une boîte un petit peu bizarre, shady, comme on dit, hein, chez nos amis américains. Donc, moi, j'irais pas leur confier mon ADN, si tu veux, sachant que derrière, à la base, ils pouvaient quand même en faire quasiment littéralement ce qu'ils voulaient. Alors, c'est a priori plus le cas aujourd'hui. Ils ont dit non, on a changé, mais on sait ce que ça veut dire. Les gens qui disent on change, souvent, c'est pas le cas. Donc, voilà, méfiez-vous. Et puis surtout, déjà de base, je trouve pas le truc super intéressant, quoi.
Ça m'a l'air d'être un gros random sur la taille de tes gènes.
C'est ça.
Et puis en plus, balancer mon ADN pour ça.
Laisse-moi
réfléchir. Ah non.
Non, puis il faut payer en plus, donc.
Pardon.
Ah oui, non, c'est pas gratuit non plus. Je crois que c'est 100 balles. 100 balles pour envoyer ton kit ADN, pour recevoir ton kit ADN et le renvoyer chez eux et après avoir ta petite sélection Spotify. Alors c'est cool parce que tu peux briller en soirée et dire voilà, c'est de la musique qui est basée sur mon ADN. Et ça va faire marrer les gens 5 minutes et après tu n'auras plus d'amis.
C'est ça. Voilà. Sinon t'aurais pu faire une playlist et te sortir les doigts. Mais
exactement. C'est quand même intéressant. Bref, voilà, petit taquet asséné. On va passer à la suite et à la fin même de ce podcast puisque c'est notre dernière news. Ouais. Tu voulais parler de Plex.
Ouais, nos amis de chez Plex qui, en ce moment, pour une feature ajoutée, il y en a deux d'enlever. Ils sont au taquet. Ils évoluent vachement surtout aux US. C'est une boîte américaine, donc forcément, ils n'ont pas exactement les mêmes priorités que sur le reste de la planète et donc il y a plein de features qui ont été rajoutées dernièrement, dont on n'a rien à foutre, faut quand même être super honnête, genre l'enregistrement de la télé, tu vois, tout leur système de magnétoscope numérique, qui en plus ne marche pas chez nous, on s'en fout complètement. Et là, ils viennent de virer plusieurs trucs, alors du coup, j'ai vu pas mal de news en mode genre, ah mon dieu, c'est horrible. Alors vous allez tout de suite vous détendre, oui, ils ont enlevé des trucs, mais personne s'en servait non plus. Donc, mais c'est vrai que ça fait jamais plaisir quand t'as des trucs qui disparaissent. Alors, premier truc qu'il va virer, c'est la Cloud 5, la synchronisation cloud. Qui normalement était la possibilité aussi de balancer ses vidéos sur le cloud et de pouvoir les mater en se connectant au lieu de se connecter sur votre NAS ou sur votre serveur loin. Eh bien, vous vous connectez sur votre petit cloud et vous lisez vos vidéos.
Ouais, ça a du sens quand même. Enfin, je veux dire, avec les connexions d'aujourd'hui...
C'est une super idée. Sauf que ça n'a jamais marché. Déjà, le premier truc, c'est que quand il y a eu AWS, quand Amazon a ouvert son cloud illimité, tout le monde s'est précipité dessus en se disant « Putain, je vais mettre mes téraoctets de série là-dessus. Ça va être tellement bien, tellement pratique. » Oui, sauf que Amazon, ils ont vu le truc arriver, ils ont limité l'API et c'était pas possible, en fait. Donc, c'est le premier truc qu'ils ont enlevé. Ça a été justement la synchro Amazon. Et puis derrière, ils sont aperçus que la synchro dans Google Drive, ça marchait pas très bien non plus. Et puis après, ils sont aperçus que, en fait, ça marchait jamais. Et plus ils essayaient de faire fonctionner, plus les mecs qui te fournissent les services cloud verrouillaient le truc pour pas se retrouver justement avec des teraoctets de vidéos dont on sait pas trop si tu as les droits non plus, tu vois, sur leur truc. Donc ça dégage. Et la synchronisation de ce truc-là, c'était une bonne idée, mais non. Le truc qui vient, c'est le plugin directory. Alors, ça, c'est chiant, oui et non. C'était juste le catalogue de tous les plugins dispo sur le truc, sauf qu'il était jamais à jour. C'est-à-dire que t'avais Roger qui mettait un plugin, il le mettait jamais à jour, il marchait plus depuis 12 versions, il était toujours dans le directory, en fait. Donc, il n'y avait pas de curation de ce truc-là, ce qui était une connerie de la part de Plex, en fait. Ils auraient dû gérer ce truc-là. Et du coup, ils utilisent le fait que il n'y a pas beaucoup de plugins qui fonctionnent vraiment très bien et que c'est une mauvaise expérience utilisateur. Et donc, ils disent, on va le virer. Ok, très bien. Alors, ça râle beaucoup, mais la réalité, annoncée en tout cas par Plex, c'est qu'il y a moins de 2% des utilisateurs de Plex qui utilisent ce truc-là, qui installent des plugins. Et surtout, on peut complètement continuer à installer les vrais plugins à la main. Et comme les plugins les plus intéressants sont surtout sur GitHub et qu'il fallait se taper des manips à la main,
Ça change pas grand chose.
Ouais. Ça change pas grand chose, donc voilà, c'est pas.
Je
c'est
te
pas...
confirme que si ça arrivait sur Kodi, ça serait nettement plus brillant parce que c'est quand même un truc un peu central et qui fait que justement Kodi garde un peu aussi ses aficionados, c'est tout le côté justement plugin, repository, etc. qui fonctionne plutôt pas mal.
Mais Kodi, je le vois un peu comme le Linux du truc, si tu c'est veux. Ça. On est plutôt sur une plateforme un peu ready to go avec Plex, et du coup parfois, bon bah, ils sont obligés de prendre des décisions qui feraient hurler chez Kodi, et là qui sont là genre bon. Bon, allez. Si, sur le forum, tu peux trouver des mecs qui vont râler. Hein. Sur le forum officiel, tu vas en trouver, mais c'est pas dramatique. Mm-hmm. Et le dernier truc qui vient, c'est le bookmarking. Alors, ça, c'est un truc que j'avais en plugin depuis 1966 sur mon Safari. Comme vous le savez, avec ma news que j'ai fait sur Geekzone cette semaine, bah, les plugins, les extensions en tout cas sur Safari, c'est devenu un gros problème avec la nouvelle version. Et du coup, ce truc-là avait disparu. Mais ça tombe bien, la feature aussi disparaît chez eux. C'est le bookmarking. Donc, le bookmarking, c'était quoi ? C'était la possibilité d'envoyer n'importe quelle vidéo que vous voyez sur le net vers Plex. En gros, vous voyez une vidéo sur YouTube, Vimeo, etc. Vous pouviez dire « mater plus tard avec Plex ». Et ça l'envoyait sur une partie spécifique de Plex pour pouvoir la regarder après. Ce truc-là n'est plus possible. Et apparemment, j'étais le seul à l'utiliser, donc...
c'est cool parce que ça a l'air quand même. Enfin, ça, pour le coup, c'est une bonne idée, quoi. Enfin,
c'est une super bonne idée. Et a priori, soit personne ne savait que c'était là, ce qui est une possibilité aussi.
Ou alors c'est intégré dans les plugins, peut-être. Enfin, je sais que sur Kodi, par exemple, si tu veux, t'as ton accès à YouTube et tu peux dans YouTube avoir un accès à ton watch letter. Donc, tu peux dire watch letter sur YouTube et puis après le récupérer dans Kodi. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est la même chose chez Plex et du coup, ça faisait redondant. Je sais pas.
Non, je pense que vraiment c'était un truc. C'est une partie entière. C'était un menu à part, en fait. Hein, que tu avais, et a priori, ce truc-là va disparaître, si j'ai bien compris. Okay. Alors, si je dis une connerie, j'ai l'habitude, hein, maintenant. Vous pouvez me reprendre de voler, je ferai ma culpa la semaine prochaine. mais je pense que là, on est vraiment sur de la feature qui était intéressante, mais très peu utilisée, chiante à maintenir pour eux, en fait, et qu'ils sont en train de concentrer tous leurs efforts de dev sur des trucs, qui nous, bon, petits français, nous intéressent pas forcément. Donc, je vous dis, hein, toute la plateforme DVR qui est vraiment, super anecdotique ici, mais qui va globalement dans le sens des utilisateurs américains. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, les trois trucs virés ne risquent pas de manquer à grand monde. Mais moi, j'aime pas quand on enlève des trucs à mon soft. donc je voulais en parler cette semaine.
Voilà, pas vraiment de rente, mais quand même un petit peu.
Un petit peu énervé.
Et c'est la fin de ce 60e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine dès 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis d'ici là, on va se reposer et passer un bon week-end, Caf.
Ça me paraît un très bon plan.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
À la semaine prochaine.
Jeter un coup d'œil sur le billet que j'ai écrit cette semaine. Attends, parce que putain, la semaine.
Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que j'allais enchaîner en disant oui, non, ce que vous entendez n'est pas le son de
guitare. Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir. C'est la police. Bonjour la police.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.